stops you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi, ce soir, Laurent Burri, Charles Ardenne, Emmanuel Dupuis pour parler ensemble de Liberta, Mozart et l'opéra. C'est un disque gravé par Raphaël Béchon et Pygmalion, chez Harmonia Mundi, de Indian Queen de Henry Purcell, mise en scène Guy Cassiers, direction Emmanuel Haïm, c'est à l'opéra de Lille. Sextet, double sextet de Steve Reich, c'est un disque d'Ecozone chez Mod Records. Et il y aura un coup de cœur de Charles Ardenne pour la sortie en DVD de Péléas et Mélisande de Claude Debussy dans une mise en scène de Dmitri Tcherniakov sur la direction d'Alain Altinoglou, le tout paru chez Bel Air Classique. Nous ouvrons cette dispute avec le disque Liberta, Mozart et l'opéra. De quoi s'agit-il? De s'intéresser aux recherches du compositeur entre 1782 et 1786, c'est-à-dire avant sa rencontre avec Da Ponte, qui donnera naissance à la fameuse trilogie d'opéra. On va s'intéresser à la provenance des diverses partitions qui nourrissent ce disque. Mais avant cela, un premier tour de table. Laurent?
Eh bien, c'est un disque qui permet, pour une fois, d'entendre ces œuvres de Mozart qui sont en général délaissées, non pas parce qu'elles ne sont pas bonnes, mais simplement parce qu'il s'agit d'essais inaboutis et qui donc ne peuvent jamais être montés à la scène.
Charles Ardenne.
Opéra imaginaire, réelle merveille.
Il a préparé. Bon, Laurent Burri nous sauve la mise au débeauté, hein. Il remplace celui-ci comme mot souffrante, mais qui va déjà beaucoup mieux. Je viens d'avoir un SMS. Elle nous écoute. Soyez sérieux.
On l'embrasse.
Emmanuel Dupuis.
Eh bien, c'est un programme sophistiqué, mais à mon goût trop sophistiqué. C'est un programme long, mais à mon goût trop long. Et donc, pour résumer, je dirais que c'est un disque qui a beaucoup de qualités, mais aussi beaucoup de défauts.
Bon, eh bien, en guise d'exemple, nous allons écouter le sextet de Loca del Cairo.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Voilà pour cet extrait de Liberta. Alors, hein, oui, ça sonne comme du Mozart, ça tombe bien, ça en est. Alors, il faut un peu expliquer, tiens, Laurent Burry, l'archéologue des partitions, ce concept de disque, alors qu'Emmanuel Dupuis, on a bien compris, a moyennement goûté.
On peut le dire.
Voilà, un avis un petit peu partagé. Il repose sur des partitions venues...
Alors, il repose sur des partitions qui ne sont plus connues qu'à l'état de fragments, de brouillons inachevés, quelquefois vraiment très fragmentaires. Il y a des airs qui ont été complétés pour l'occasion. Et donc, Raphaël Pichon, qui aime beaucoup puiser à droite et à gauche pour fabriquer des choses, un peu, on l'a vu cet été avec le Requiem de Mozart, pour lequel il est allé chercher des pièces ici et là pour compléter... Là, il a décidé d'enregistrer ses œuvres très peu données, comme Lo Sposo dell'Uso, L'Orca del Cairo, tout ça, avec l'idée qu'il fallait quand même en tirer quelque chose, d'en faire davantage que simplement aligner des morceaux qui n'ont pas vraiment de liaison entre eux, puisqu'il manque, il manque les récitatifs entre les quelques airs que Mozart a composés. Et donc, il a imaginé sa propre trilogie, qui ne doit rien à Da Ponte, mais qui est à nouveau, on a une première partie qui est une sorte de Noce de Figaro, une deuxième partie qui évoque beaucoup Don Giovanni parfois, et une troisième partie qui pourrait être une sorte de Così avant l'heure. Mais il a quand même réussi à trouver des morceaux qui s'intègrent tout à fait à cette idée. Quand vous entendez les morceaux de Thamos, roi d'Égypte, dans la deuxième partie, on entend vraiment Don Giovanni. Il y a des choses qui sont vraiment très proches. Il a réussi justement à faire ces choses-là. Et en plus, il a la complicité d'arrangeurs qui ont fait en sorte que tout cela, alors que ce sont des morceaux écrits pour des effectifs très variés, il y a des choses a cappella, il y a des choses pour petit ensemble de chambres. Tout ça a été réécrit, harmonisé, arrangé pour en faire une sorte d'opéra, comme si Mozart avait voulu en faire un tout continu. Évidemment, il manque des récitatifs, ça n'est pas vraiment un opéra, mais tout cela est enchaîné de manière à donner un semblant de cohérence dramatique.
Ça vous semble à vous cohérent?
Je ne pense pas que ça tiendrait l'épreuve de la scène.
Oui, non, mais pour le, on parle d'un
disque. Mais au disque, en concert, je pense que ça passe tout à fait, oui.
Pas d'accord, Emmanuel Dupuis.
Non, parce que cette dramaturgie que Raphaël Pichon essaie de nous vendre et qui est censée unir les différents éléments de la de ce programme. Moi, je ne l'aperçois pas vraiment. Moi, j'entends d'abord des choses extrêmement disparates, puisqu'on entend des extraits d'opéras achevés ou inachevés, des airs de concert, des compositions vocales plus intimes, comme vous l'avez dit, des canons, des nocturnes, dont certains sont absolument sublimes, c'est certain. Il y a aussi des extraits d'opéras de Salieri, de Soler, de Paisiello, des airs en allemand, d'autres en italien. Donc, pour moi, tout ça forme un patchwork assez décousu, et la soi-disant dramaturgie qu'on veut nous vendre, pour moi, elle n'est pas cohérente. Elle n'existe pas, sauf si on lit vraiment les notes d'intention de Raphaël Pichon dans le livret et qu'on a envie d'y croire.
Charles Ardenne, il y a cru, lui.
Oui, complètement. Vraiment, je suis entré dedans. Peut-être parce que, déjà, même les œuvres de Mozart ont différents épisodes, différents caractères, enchaînent différentes ambiances, tout à fait. Et puis peut-être que je suis aussi un peu échaudé par les autres tentatives qu'on a eues précédemment d'opéras imaginaires. Hein, on en a eu notamment l'opéra imaginaire qui avait été donné par Hervé Nickel, CMBV. On a eu le Ballet Royal de la Nuit qui, dans sa version qu'on a vue à Versailles, était aussi un peu réimaginé. Mais on avait eu aussi un autre très bon exemple de Raphaël Pichon à la Galerie des Glaces, Château de Versailles, qui réimaginait la naissance de l'opéra italien. Donc là, il passe chez Mozart, et moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait l'effort, qu'il avait vraiment fait le boulot, on pourrait dire. Comme le disait Laurent, c'est une réinvention de la trilogie d'Aponte, donc chaque partie a le sous-titre qu'avait chacun de ses opus. Donc d'abord La Folle Journée, puisque c'est Les Noces de Figaro ou La Folle Journée, ensuite Le Débauché Puni pour Don Giovanni, L'École des Amants pour Cosi. Chaque interprète aussi est travailler dans son phare, c'est-à-dire dans sa caractérisation vocale, soprano léger, soprano lyrique, mezzo, etc. Et chacun a un personnage qui va avec chez Mozart. Donc Sabine de Vielle, soprano léger, fait la camériste et l'amoureuse. Soprano lyrique, comtesse. Mezzo léger, femme trahie. Ténor de grâce, comte et amoureux, etc., etc. Et comme ça, moi, j'ai tout à fait resuivi tout ça comme un drama giocoso au fil de ces trois actes, avec ses personnages, ses incarnations et la qualité transversale de l'interprétation des musiciens.
Laurent Buré.
Il faut quand même voir qu'il y a des manipulations qui sont faites jusque dans les tessitures vocales. Il y a des airs pour ténor qui deviennent pour baryton et inversement. Donc, évidemment, ça n'est pas un disque pour puristes. Ça, c'est indubitable. Après, cette histoire de dramaturgie, je pense qu'il ne faut pas trop non plus y attacher d'importance. C'est un peu un prétexte pour nous livrer des morceaux de Mozart qu'on n'entend jamais et qu'il est bien dommage qu'on n'entende jamais puisqu'ils sont, pour certains, de très grande qualité.
Ça veut dire plus globalement qu'aujourd'hui, un disque de cette sorte, il faut trouver l'histoire qui va le faire vendre. C'est ça aussi l'industrie du disque aujourd'hui, Emmanuel Dupuis ?
C'est ça, mais ce genre de concept, pour moi, c'est souvent une sorte de cache-misère.
Mais là, c'est un explorateur, on le sait.
Oui, mais
il aime ça, c'est sincère.
D'accord, mais Raphaël Pichon a d'immenses qualités de chef. Dans son ensemble, son orchestre, là, on entend des couleurs absolument magnifiques. Dans les ensembles vocaux, tels que celui qu'on a entendu tout à l'heure, il y a une vie théâtrale qui est vraiment irrésistible. Donc, qu'est-ce qu'il attend maintenant pour enregistrer les opéras de Mozart plutôt que
laboratoire.
Il se prépare.
Oui,
il se prépare.
Exactement.
Peut-être, mais c'est une expérimentation. Et par définition, ce qui est expérimental n'est pas achevé, n'est pas abouti. Et moi, je n'entends pas un objet abouti.
Si lui grave bientôt la trilogie d'Aponte et que vous trouverez peut-être ça abouti parce qu'il sera passé par là.
Probablement, mais j'attends.
J'attends de pied ferme. Pour, contre ce type d'expérimentation, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, Laurent Buré, plutôt pour, en tout cas pour le disque.
Oui, au disque, je pense, comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'à la scène, ce genre de propos tiendrait.
Il n'y a pas de concert prévu d'ailleurs.
En concert. Parce qu'elle attend.
Un heureux événement.
En concert, oui. En scène, non.
Bon, il faut que je retrouve les dates des concerts maintenant. on va me donner tout ça. Charles Ardenne, je voulais vous poser une question dont j'ai oublié la teneur.
Très bien, je vais vous répondre. Alors, ouais. Par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Dupuis, justement, moi, je pense que c'est là où ça se joue. Emmanuel Dupuis a très justement dit qu'on avait énormément de disques et de projets qui étaient des prétextes, où on enchaînait comme ça des airs, les derniers airs qu'on avait travaillés, les dernières choses qu'on avait envie de ressusciter, et on plaque là-dessus un discours, un texte. Là, je trouve que justement, au contraire, ça part, comme vous l'avez dit Arnaud, de la volonté de Raphaël Pichon, de leur envie, de leur exploration. Et si on rentre dans le détail, il y a énormément genre de choses qui fonctionnent très bien. Bella Fiamma Adio, qui est un récitatif aria. Moi, ça m'a furieusement rappelé l'air de la comtesse, Dove sono i bei momenti.
Non, mais l'ouverture de la troisième.
D'accord. Mais plus que rappelé, en plus, grâce à cette mise en éclairage.
D'accord, mais alors là, précisément, vous prenez un exemple qui n'est pas à l'avantage de l'interprète, parce que c'est là aussi que le bas blesse, c'est que tous, individuellement, s'exposent à des comparaisons qui sont rarement à leur avantage. Et là, en l'occurrence, cet air qui est chanté par un soprano qui s'appelle Siobhan Stagg, il se trouve que cet air a été enregistré par une certaine Margaret Price. Oui, et là, on est sans couder au-dessous. Oui, et c'est la même chose avec Serena Malfi qui chante le Vado Mado, qui est un air qui a été enregistré par plusieurs mezzo-soprano, en particulier par Magdalena Kozena, avec une toute autre puissance vocale et expressive, une toute autre acuité. Donc, si on prend les éléments individuellement, séparément, ben, chaque fois, on trouvera mieux ailleurs.
Mais Emmanuel, la comparaison avec d'anciens interprètes n'est pas liée au projet discographique.
Ah bah si, je suis désolé, en tant que discophile, moi je veux avoir le meilleur, et si je dois conseiller la meilleure version de tel ou tel air de concert, je n'ai pas conseillé ce disque-là en priorité, c'est certain.
Effectivement, c'est là que le programme touche à ses limites. Tout ce qui est de l'ordre de la rareté absolue, comme les opéras inachevés de Mozart, tout cela, il y a beaucoup moins de comparaisons possibles, alors qu'effectivement, dès qu'il puise dans les airs de Mozart,
Là, il s'expose.
C'est un peu délicat, puisque la distribution vocale, elle aussi, a des limites certaines. Sur les 6 chanteurs, il y en a 2 très bien, il y en a d'autres où on aurait pu préférer des collègues à eux.
Bon, il y en a 2 qui dominent quand même, je crois qu'on...
Oui. Enfin,
peut-être qu'on sera tous d'accord, je ne sais pas. C'est Sabine de Vielle, évidemment.
C'est les 2 extrêmes de la tessiture.
Voilà, qu'on ne présente plus, qui est une sublime musicienne. Elle chante notamment avec une virtuosité sidérante et... Le Köchel 419, et puis il y a Nahuel Di Piero, ouais, la basse, voilà. Qui a un grain absolument magnifique, mais une prononciation de l'allemand qui est, à mon sens, perfectible.
Bon. L'italien lui va très bien.
L'italien lui va très bien, ça c'est certain.
Ce qui est bien, c'est que je laisse vous disputer seul, parce que pendant ce temps, j'ai pu trouver les dates des concerts de Libertà. Donc merci messieurs de mener aussi bien la dispute en ma présence, qui est une absence en ce moment. Donc Libertà, si on veut le voir en concert, 12 décembre à Nancy, à l'Opéra National de Lorraine, le 13 aussi d'ailleurs, à Évian le 15 décembre, le 16 décembre à Toulouse, à Paris le 17 décembre, ce sera la Philharmonie, à Bordeaux à l'Opéra le 18 décembre, à Massy, à l'Opéra de Massy le 21 décembre, et au Théâtre de Caen le 22 décembre. Mais on peut aussi, quand même, aussi très, beaucoup plus facilement se procurer le disque pour savoir se situer par rapport à vos différents avis. Le disque Libertà, Mozart et l'Opéra chez Harmonia Mundi. À suivre dans la dispute, Indian Queen, sextet, double sextet, Péléas et Mélisande.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec The Indian Queen de Henry Purcell, c'est Guy Cassiers qui en signe la mise en scène, Emmanuel Haïm la direction musicale, tout cela à l'Opéra de Lille. The Indian Queen, c'est un semi-opéra, c'est-à-dire qu'on y trouve des scènes parlées et des scènes chantées. Ça a d'abord été une pièce de théâtre créée en 1664, mise en musique par Henry Purcell en 1695, achevée par son frère Daniel après la mort d'Henry. L'histoire se situe pendant la guerre entre les Aztèques et les Incas, sur fond de romance entre la reine des Aztèques et le général des Incas. Avant d'en entendre un extrait, et pour avoir quelques images, Charles Ardenne, la scénographie, on sait que Guy Cassiers, plasticien également de formation, les soigne particulièrement, et parti pris de mise en scène.
Alors, dans un plateau noir et vide, sans décor ni accessoires, des acteurs et chanteurs, habillés tout en noir, sont plutôt immobiles, on dirait, à l'avant-scène. Y a quelques rayons ou des spots de lumière qui viennent, un peu de néon, de rangées de projecteurs alignés. Et puis, bon, le sommet de la signification de ces projecteurs, c'est quand il y en a 2 qui explosent pour la mort finale. Du coup, la scène.
Ça, c'est déjà un commentaire, hein.
Oh, c'est un fait.
Je vais demander une description.
C'est vraiment le sommet.
Non, on a senti une ironie.
L'usage des lumières. À peine. Alors, je vais calmer tout le reste. Donc, on va dire que la scène et l'attention du spectateur sont vraiment focalisées sur 5 écrans de différentes tailles, différents formats, comme un peu des tableaux numériques qui naviguent de gauche à droite, de haut en bas, qui forment comme des pièces, des couloirs, des cheminées. Et sur les écrans, on voit donc des, alors je vais pas dire des cartes postales, des images de la plage. On voit des immeubles défoncés parce que c'est la guerre. On a des zooms aussi sur les détails de motifs Inca. Ça, c'est quelque chose. Le zoom en vidéo, c'est quelque chose que travaille beaucoup Guy Cassiers. Mais on a surtout ces vidéos.
Je suis pas sûr. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup de mises en scène de Guy Cassiers au théâtre à l'Opéra.
Bah, c'est vrai que vous en avez vu plus
infiniment. Que moi. Le zoom n'est pas une figure particulière.
C'est ce qui m'avait
cinéma.
Marqué moi, en tout cas, dans le Trompe-la-Mort à Garnier.
Fondé avec Hong Sang-soo.
Et du coup, la plupart du temps, de toute manière, sur les écrans vidéo, on a donc les mêmes acteurs que ceux qui sont présents sur scène, qui doivent jouer la même chose, mimer la même chose que ce qui est parlé sur scène, projeté par les micros. Évidemment, c'est impossible parce que les acteurs, ils sont vivants, donc il y a un décalage constant, total, et on est censé, nous, en tant que spectateurs, avoir du coup une triple attention sur les acteurs sur scène, les écrans vidéo, plus un peu les surtitres, si on veut essayer de comprendre cette histoire très baroque.
Alors, Laurent Burie opine, hein, mais comme moi, il n'a pas fait le voyage de Lille pour l'instant, mais vous avez quelques informations à partager sur cet opéra.
Ce que j'ai pu lire, ce décalage est voulu entre ce que jouent les acteurs sur scène et ce qu'ils jouent à l'écran. Le film a été réalisé en amont, avec des costumes différents, et de vrais costumes, alors qu'ils ont des tenues contemporaines, sobres, sur scène. Et apparemment, le metteur en scène a voulu que ce ne soit pas la même version des événements qui se joue sur scène en direct et celle que l'on voit sur les écrans.
C'est une intention.
Emmanuel Dupuis, c'est une intention.
C'est une intention.
Juste avant de poursuivre là-dessus, quand même, Emmanuel, sur cette forme de semi-opéra, on n'est quand même pas très habitué à cela.
Oui, bon, en réalité, c'est une pièce de théâtre avec une musique de scène, mais en l'occurrence une musique de scène très développée, parce qu'il y a à la fois un orchestre, un chœur, des chanteurs, mais les chanteurs, en réalité, n'interviennent pas dans l'action, ils sont plutôt là pour la commenter, et c'est ce qui rend cette fusion extrêmement difficile, fusion musique et théâtre extrêmement difficile à mettre en œuvre, et c'est peut-être l'écueil de cette production.
On va écouter un extrait de cette semi-opéra de Indian Queen, un dialogue entre la reine indienne Zempaola et le magicien Ismiron.
Great Empress, let not your rage offend what we adore, and vainly threaten when we must implore. Sit silently and attend. While my powerful charms I end. I'm the cruel king of the toad in the caves that make a boat. I'm the cruel king of the toad in the caves that make a boat.
Open and open my heart away. Voilà pour cet extrait d'Indian Queen d'Henry Purcell, partition achevée par Daniel Purcell. Puisqu'on vient d'entendre de la musique, Charles Ardenne, sur cette partition, malgré tout, cette semi-partition, non, c'est une totale partition pour un semi-opéra.
Ben, remarquable au niveau de son interprétation, et comme le disait Emmanuel, c'est compliqué comme ça d'arriver à enchaîner théâtre et musique, et il y a une qualité d'interprétation dans la musique qui est constante, aussi bien à la fosse. Il faut savoir tout de même qu'il y a beaucoup de changements qui ont été faits par rapport à ce qu'on avait de cette Indian Queen, puisque Indian Queen avait donc été terminée par le frère d'Henry Purcell, Daniel. Donc là ici, Guy Cassirs a décidé d'enlever ce qui n'était pas du Henry Purcell. Il s'est concerté avec Emmanuel Haïm pour rajouter du Henry Purcell et rajouter d'autres extraits, d'autres compositeurs.
D'accord. C'est pour ça que c'est si long. Parce que normalement, ça va être assez court. Hein.
Ça fait long, en tout cas.
Parce que, enfin, j'ai lu dans les programmes 3 heures de durée, c'est le cas.
Le texte est long. La partie parlée est longue. Donc, ouais. Quand vous avez la musique et le texte.
Tout le dernier acte, c'est du Daniel Purcell. Enfin, ils ont rajouté du Matthew Lark, des choses comme ça, mais la musique de Daniel Purcell a été conservée.
Ah, ils annoncent avoir enlevé le Daniel Purcell. C'est dans les programmes et dans les notes de presse.
Voilà. Bon. Mais vous n'avez pas tout, Laurent Burry.
Parce que j'ai vu dans le livret.
Emmanuel Dupuis.
Mais toutes les musiques qui ont été ajoutées l'ont été avec beaucoup de sens et de goût. Enfin, il n'y a aucune rupture stylistique. Tout a été vraiment très très bien pensé. Et ce qu'on entend est absolument superbe. Là, je rejoins Charles. L'orchestre d'Emmanuel Haïm est très opulent. Il y a plus de 25 musiciens dans la fosse. Il y a beaucoup de générosité, beaucoup de souffle dans la direction d'Emmanuel Haïm. Et les chanteurs sont tous anglophones, ce qui n'est pas un détail pour une œuvre où la langue est si importante. Et ils sont tous excellents. Et moi, il y a en particulier deux chanteurs qui m'ont vraiment beaucoup plu. C'est Hugo Imas, qui est un ténor à la grâce absolument irrésistible. Et puis Anna Denis, qui est un soprano à la fois très ample et très agile. Et à la fin, elle chante deux airs absolument sublimes qui mettent la salle à ses pieds. Donc musicalement, oui, c'est un très grand succès.
Sur les voix,
moi j'ai beaucoup aimé les voix graves, les hommes graves, notamment Gareth Bryner John, qui en plus a la qualité de chanter et de jouer son personnage d'Isméron. Oui, ils sont très peu à pouvoir le faire ainsi. Et aussi Tristan Hambleton, baryton basse, qui chante l'envie et un grand prêtre. Il chante l'envie avec tellement d'envie, si vous voulez, qui domine même le personnage avec lequel il discute, qui est la gloire. Bon, ce qui pose un énorme problème au niveau du sens de cette histoire bien chrétienne où normalement la gloire doit dominer l'envie.
Ah, je vous laisse cette conclusion sur ce livret, mais je reviens quand même vers ces questions de mise en scène et de scénographie, d'écran, de décalage, de double interprétation, si je puis dire. Ça a vraiment pour vous gêné la réception de l'œuvre, Emmanuel Dupuis?
Disons que, comme on l'a dit, effectivement, Guy Cassirs montre les comédiens de deux façons différentes. D'une part en vidéo, et d'autre part, il montre leur jeu réel. Et en faisant cela, il entend, c'est ce qui est expliqué dans le programme, il entend montrer une certaine tension entre la sphère publique, qui serait représentée par la vidéo, et la sphère privée, représenté par le jeu réel des acteurs. Mais moi, cette tension, je ne l'ai pas ressentie. J'ai au contraire ressenti un sentiment de redondance permanent entre ce qu'on voit sur les écrans et ce qu'on voit au premier plan avec le jeu réel des acteurs. Mais même si leurs costumes sont différents, beaucoup plus exubérants dans la vidéo et très sobres sur la scène, je n'ai pas ressenti cette différence fondamentale et la tension que prétend nous vendre le dramaturge. Et donc, cette forme de redondance pendant 3 heures de spectacle, c'est quand même un problème. Et d'autre part, comme Charles l'a expliqué tout à l'heure, on a ces 5 écrans qui prennent beaucoup de place sur la scène. Et par voie de conséquence, les comédiens sont la plupart du temps cantonnés à l'avant-scène. Ce qui fait qu'ils ont un jeu très frontal et de façon générale assez statique. Alors ceci étant, il y a après un travail sur le texte, on l'a entendu un petit peu au début de l'extrait, un travail sur le texte qui est absolument remarquable. Ça, les comédiens, il faut bien le dire, sont absolument excellents, avec une mention particulière pour Julie Legrand qui chante le personnage de Zampoala, qui est la
qui joue
reine,
donc
qui joue pardon qui joue le personnage
ouais, c'est chantant c'est
qui est voilà oui parce qu'effectivement il y a une musique de la langue qui est absolument irrésistible et on savoure ça à chaque instant, mais malgré tout cela reste très statique et malgré l'apport de la vidéo, il n'y a pas de véritable rupture visuelle pendant presque 3 heures. Donc c'est quand même un souci. On voit à peu près toujours le même dispositif. Et puis surtout, à mon sens, il manquait un élément essentiel pour cette œuvre-là. C'est l'exotisme. L'exotisme qui était au XVIIe siècle une déclinaison du fantastique et qui, dans cette œuvre-là, est un ressort essentiel. Or là, cet élément, on ne l'a pas du tout. Ça pourrait se passer n'importe où. Et c'est dommage.
Charles Ardenne.
Exactement. On nous vend l'Eldorado. Déjà, quand on sort de la gare, vu que ce projet s'inscrit dans l'île 3000, il y a aussi des sculptures comme ça, des installations qui bordent toute l'avenue.
C'est Eldorado, le thème de l'île 3000.
Exactement. Donc, on a des statues exotiques, culturelles, multicolores.
Ben voilà, vous l'avez dans la ville.
Et ben voilà. Et ben après, le choc, quand on rentre dans la salle, c'est tout noir, c'est tout sombre. Emmanuel disait qu'il y avait un peu de costumes dans les vidéos. Oui, enfin, bof, c'est des peaux de bêtes, c'est des longues perruques, c'est des personnes tatouées, les vidéos sont vides, presque aussi vides. Donc, en effet, il y a une redondance. Et puis, au niveau de l'expérience du spectateur, je vous avoue, moi, j'ai trouvé ça insupportable que pendant tout le temps, on voit ce décalage entre la parole et la vidéo. Même quand Guy Cassirs, je pense, fait exprès se retourner les acteurs vers les vidéos, donc ils tournent le dos au public pour se voir, ils ne sont pas synchronisés, c'est pas possible. C'est des bons acteurs, ils sont vivants, ils ne peuvent pas respecter une vidéo en boîte. Comme
c'est
ça.
Fait pour, hein, nous a dit Laurent Burek, soit désynchronisé. Mais bon, ça ne vous a pas convaincu. Ou en tout cas, vous ne l'avez pas apprécié comme tel. Laurent Burek, pour
juste ajouter un mot, bien que n'ayant pas vu le spectacle, il faut peut-être penser aussi que l'auteur du texte de cette pièce, Dryden, est quelqu'un qui a surtout été connu en Angleterre après dans les années 1860 pour être notamment celui qui a transformer les pièces de Shakespeare en pièces comparables à celles de Racine. Donc le modèle du texte ici, c'est la tragédie racinienne. Et c'est peut-être aussi le problème du fait que ce soit une tragédie, parce que les autres semi-opéras de Purcell, qui sont d'après des comédies, passent beaucoup mieux à la scène maintenant. Là, c'est une tragédie. Je pense que personne ne se plaindrait qu'on monte Bajazet sans turban, par exemple. Donc l'exotisme...
Il y en a qui s'en plaignent, rassurez-vous, mais toujours.
L'exotisme de la chose n'est pas tant que ça dans le texte. Il est dans le livret, parce que ça se passe censément, enfin, cela dit, les Mexicains et les Incas, je ne suis pas sûr qu'ils soient jamais rencontrés dans l'histoire, mais c'est un exotisme qui est purement dans une ligne dans le livret et qu'on ne voit pas
oui,
vraiment.
Oui, de toute façon, après, on peut l'imaginer voilà. De toute façon possible. C'est Indian Queen est donné jusqu'au 12 octobre à l'Opéra de Lille. Ensuite, c'est une coproduction, donc il sera repris au Théâtre de Caen, à l'Opéra d'Anvers et au Théâtre de la Ville de Luxembourg. Et puis, 12 octobre, on pourra le voir en direct à 18h sur Mezzo et on pourra le voir aussi plus tard et plus longtemps sur Culture Box, le site internet dédié au spectacle vivant de France Télévisions. C'est l'heure du coup de cœur de Charles Ardenne pour la sortie en DVD de Péléas et Mélisande de Claude Debussy dans une mise en scène de Dmitri Tcherniakov sous la direction d'Alain Altinoglu, c'est chez Bel Air Classique. Alors je ne l'ai pas encore regardé ce DVD, je n'ai pas vu la production, c'était à la Monnaie ou c'était
Zurich.
À Zurich. Non, Alain Altinoglu est à la Monnaie maintenant, mais ça m'avait échappé, je pense que j'aurais peut-être été jusqu'à la Monnaie, mais je n'ai pas été à Zurich. Je suis très curieux, moi, de découvrir cette production, et c'est de votre choix. Charles Ardenne, vous voulez d'abord l'extrait et parler ensuite? Bon, ben d'abord l'extrait, c'est quoi comme extrait que vous avez choisi?
C'est une inspiration initiale de Mélisande quand elle est touchée pour la première fois par Golo, et puis c'est le thème initial de cette partition.
Thank you.
On a bien eu l'inspiration initiale. Hein. Vous êtes content, Charles Ardenne?
Ah, oui.
Je remercie Alexandre Fougeron qui a réalisé cette émission. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Dmitri, ce coup-ci?
Dmitri Tcherny met en scène une thérapie de PLS et Mélisande. Bon, d'accord. Encore, comme il l'avait déjà fait pour ses deux derniers opéras marquants en France, Les Troyens à Bastille et Carmen au Festival d'Aix-en-Provence, vont nous dire certains spectateurs et auditeurs.
Comme Laurent Burry, qui
par exemple. J'y pensais pas. C'était pas prévu à l'émission.
Non, c'est vrai.
C'était pas travaillé pour lui. Sauf que du coup, mon coup de cœur pour ce Péléas a laissé un petit coup de griffe aussi contre justement ce discours qui consiste à reprocher à un metteur en scène d'avoir une cohérence et une vision qui se développe à travers les opus.
Il lève la tête pour
c'est
voir
bien,
votre réaction.
C'est bien coup de cœur, c'est
Laurent Burry est écarlate. Il n'a pas le droit de parler.
Exactement. Oh, je vais savourer. Déjà, Tcherniakov, bon, déjà, il se fait pas thérapeute dans toutes ses mises en scène non plus. Et ensuite, une thérapie de couple qui est franchement parfaite pour Carmen n'a rien à voir avec une thérapie post-trauma de guerre qui était parfaite pour les Troyens et donc n'a rien à voir avec la psychanalyse, l'interprétation des rêves, des illusions, des complexes et des symboles qui sont dans Péléas et Mélisande. Parce que justement, Péléas et Mélisande, c'est un texte et un drame symboliste de Maeterlinck avec cette forêt comme ça de symboles. Bon, déjà la forêt qui représente la perte, le deuil, la confusion des amants, des sentiments, le subconscient évidemment. L'anneau qui représente le mariage, l'union sensuelle, bon, j'en passe avec la fontaine, les aveugles, etc., etc. Autant d'éléments qu'on ne va pas voir physiquement dans cette mise en scène par des décors ou des accessoires pour d'autant mieux les voir dans la psyché des personnages. Et puis dans la musique qui, n'en déplaise à Debussy, est un tissu aussi de symboles, de motifs, ici sous la baguette, très justement analytique et très belle d'Alain Altinoglou à la direction du Philharmonia à Zurich. Golo qui psychanalyse Mélisande, une Mélisande gothique sortie des romans de Millennium sur le divan de son appartement d'architecte, ça fait grincer.
Je vais regarder ça très vite.
Ah bah, précipitez-vous, j'ai la copie là si vous voulez. Golo qui veut soigner Mélisande et qui brise l'éthique en tombant amoureux, en devenant borderline psychopathe, c'est exactement l'histoire, cette histoire de cet opus défendu ici par des remarquables chanteurs, Jacques Brahilo dont on avait déjà parlé à la dispute pour Billy Budd et qui là développe les mêmes qualités dans une autre langue, Corinne Winters qui a de Mélisande la fragilité et la peur mais combattue par une voix pleine, et puis bien sûr le golopsy de Kyle Kettleson, violentant, puissant dans ses gestes comme dans sa voix. Le tout avec la grande direction d'acteur de Tcherniakov qui rappelle que diriger des interprètes c'est aussi un travail de psy.
Des Péléas et Mélisande, c'est ce DVD, DVD et Blu-ray, chez Bel Air Classique.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Le dernier sujet de cette dispute, c'est un disque qui réunit le sextet et le double sextet de Steve Reich, les Danois d'Ecozone, qui travaillent aussi bien le classique que le jazz ou l'expérimental, sont donc attaqués à deux pièces du compositeur minimaliste américain. La plus connue, c'est le double sextet parce qu'elle a reçu le prix Pulitzer de la musique 2009. J'ignorais qu'il y avait un prix Pulitzer de la musique. J'ai appris encore une chose, comme chaque jour. On va écouter le Moderate du sextet. Sextet, un extrait de ce disque des Danois d'Ecozone, dont on ne s'étonnera pas que le chef soit lui-même xylophoniste, et donc qui a la part belle dans ces deux partitions, et notamment dans ce sextet. Première impression sur ce disque, Emmanuel Dupuis.
Moi, c'est un disque que j'ai trouvé extrêmement réjouissant, et même, d'une certaine manière, énergisant. L'interprétation rend totalement justice aux deux œuvres de Reich, grâce à la virtuosité des musiciens, mais aussi grâce à l'excellence de la prise de son, ce qui n'est pas un détail ici.
Ça, c'était la synthèse de la vie d'Emmanuel Dupuis.
Voilà.
Synthèse de Laurent Burry.
Eh bien oui, il y a le côté réjouissant, mais il y a aussi le côté hypnotisant de cette musique répétitive. À laquelle on adhère ou on n'adhère pas. D'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui restent complètement à l'extérieur. Pour ma part, j'ai été moi aussi séduit.
Charles Ardenne.
Une interprétation très peu répétitive.
Emmanuel Dupuis, est-ce que c'est une bonne idée finalement de mettre ces pièces ensemble sur ce disque? Parce qu'elles sont de composition éloignée dans le temps, je pense qu'il y a...
Un quart de siècle.
Oui, 25 ans, j'allais dire. Ça doit être à peu près la même chose, oui, mon bravo. Cher Laurent. Mais bon, sextet, double sextet.
Voilà, c'est un petit peu la logique. Hein, et en fait, ça tombe sous le sens, puisque d'une certaine manière, la deuxième œuvre est une amplification de la première. Et ces deux œuvres, bizarrement, n'avaient jamais été réunies. Elles ont déjà été enregistrées,
oui,
toutes,
oui,
les deux, mais séparément. Et bien que 25 années les séparent, il n'y a pas vraiment de rupture stylistique entre les deux, parce que Steve Reich a fixé très vite son style, qui est reconnaissable en quelques mesures, et c'est un style auquel il est resté fidèle jusqu'à aujourd'hui.
Laurent Burry.
Malgré tout, je dirais qu'il y a une énorme différence en termes d'effectif instrumental entre ces deux œuvres. L'une, la plus ancienne, est composée presque exclusivement pour des percussions modernes, c'est-à-dire marimba, vibraphone, ce genre de choses-là. Et l'autre, au contraire, fait appel aux instruments d'un orchestre plus traditionnel, les cordes, les vents. Donc, évidemment, l'écriture reste tout à fait comparable, mais ce qu'on entend à l'oreille seule est assez différent en termes de sonorité. On a toujours le même côté répétitif, percussif, mais avec quand même des sonorités bien différentes.
Charles Ardenne, sur ce programme.
Oui, en effet, je trouve que ça renforce quand même tout de même énormément le rapprochement entre ces deux œuvres. Et puis, évidemment, il y a une logique qui est très importante aussi vis-à-vis de l'esthétique de Steve Reich, puisque si je résumais, que toute l'œuvre de Steve Reich, elle est basée sur la dualité, le double, le phasage, déphasage. Donc là, on a sextet, double sextet. Chacune de ces œuvres est bien sûr symétrique au niveau des mouvements, rapide, de plus en plus rapide à plus lent, puis de nouveau à plus rapide, par 5 dans le sextet, par 3 dans le deuxième sextet. Même le premier sextet souvent marche par 2 fois 3, voire 3 fois 2. Et puis évidemment, dans Steve Reich, il y a énormément de jeux de superposition, de micro-décalage, phasage-déphasage.
Laurent Burry.
Je pense que ce qui est surtout remarquable dans cette musique, c'est la manière dont elle a réussi à s'accaparer certaines, des influences de la musique populaire, ou disons de la musique pop, pas populaire au sens traditionnel, mais justement c'est vraiment une manière très intelligente, très habile d'intégrer ces choses qui viennent de musique plus répandue, et tout en gardant le caractère de musique savante.
Et puis là, il y a quand même ce cas d'école qui est le fait que un ensemble qui n'est pas lié particulièrement à Steve Reich s'empare d'une partition, ce qui est tout à fait logique. Steve Reich qui est encore de ce monde, mais qui est déjà un classique. C'est une nouvelle interprétation, ou est-ce que c'est un disque de plus qui reste quand même dans la tradition Reich, Emmanuel Dupuis?
C'est une nouvelle interprétation. C'est une musique qui s'interprète comme n'importe quelle autre. Ce n'est pas parce que on parle de musique répétitive, et donc on a l'impression qu'on est dans un carcan.
On peut rien bouger.
Voilà, qu'on peut rien bouger. Mais en disant cela, on s'en tient aux apparences, parce qu'en réalité, c'est un matériau sonore qui évolue en permanence, par petites touches, par effet de déphasage, par effet d'amplification du discours. Et ce sont justement ces qualités-là qui sont extrêmement bien rendues par les musiciens, par la virtuosité, la précision de leur jeu. Alors en préambule, tout à l'heure, je parlais aussi de l'excellence de la prise de son, et c'est
capital là.
C'est
oui.
capital parce que là, on a une prise de son qui est parfaite, ni réverbérée, ni trop mate, et donc on peut entendre chaque détail et surtout toute la virtuosité du jeu instrumental. Et tous les ensembles qui ont joué cette musique n'ont pas du tout la même virtuosité. Donc il y a évidemment des hiérarchies dans l'interprétation.
Laurent Burie.
En même temps, c'est une musique qui est entièrement écrite, contrairement à des œuvres antérieures de Steve Reich qui laissaient la place à l'aléatoire, à la liberté de l'interprète. Là, au contraire, les interprètes sont très cadrés. Donc, c'est d'autant plus admirable d'arriver à interpréter la musique.
Charles Ardenne.
Je pense que c'est vraiment un enjeu très important de cet album en particulier, qu'il faut surtout pas minimiser, c'est la question de l'interprétation. Est-ce que on doit, je pourrais résumer ça, est-ce qu'on doit exécuter Steve Reich ou est-ce qu'on doit l'interpréter? Parce que je m'explique, la musique comme ça minimaliste répétitive, elle demande à la base une précision diabolique de l'interprète pour que se dégagent comme ça ces patterns, ces envoûtements, ces micro-décalages, ces variations pour qu'on repère bien toutes les symétries. Là, j'ai trouvé que, justement, vous le disiez, cette interprétation semble un peu s'éloigner peut-être de la vision
de la doxa.
Exactement, de la doxa, de comment ces œuvres se sont développées. Est-ce que ça marquerait pas peut-être, on va pas utiliser des grands mots, mais peut-être une nouvelle phase dans l'interprétation de ces œuvres où on accepte, on assume de les interpréter, j'allais dire, comme de la musique vivante. Et comme disait Laurent Burie tout à l'heure, en faisant ressortir les influences qui sont dans la partition, là on a vraiment de la musique jazz, Amérique du Sud, Caraïbes, Afrique de l'Est, qui ont formé aussi Steve Reich.
Et dans le cas présent, parce qu'on a avec Ecozone un ensemble d'exceptionnelle qualité, parce que je partonnais le couteau dans la plaie d'Einstein on the Beach à Genève, mais ou des dizaines de disques avec, on interprète Phil Glass, mal. Et là, la question se pose différemment. Ecozone, c'est vraiment un ensemble exceptionnel. Laurent Burie.
Il y a une chose qu'on peut aussi signaler à propos du double Celstuor. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça? C'est parce qu'au départ, Steve Reich l'avait écrit pour que les instrumentistes, qui n'étaient que 6, jouent en accompagnant un enregistrement d'eux-mêmes. Alors que là, on a, je crois bien, 12 instrumentistes différents. Donc c'est...
Emmanuel Dupuis.
Oui, je voudrais rebondir à ce que disait tout à l'heure Laurent Burie sur la différence entre les deux œuvres, effectivement, et qui repose essentiellement plus que sur l'écriture elle-même, sur l'instrumentarium. C'est-à-dire que pour Sextet, c'est une œuvre qui ne fait appel qu'à des instruments de percussion, c'est-à-dire il y a des marimbas, des xylophones, des vibraphones, deux pianos qui sont traités comme des instruments percussifs. Donc on entend dans cette œuvre-là une matière sonore extrêmement brute et toutes les ressources de l'écriture reposent ici sur le rythme, la polyrythmie, les changements de rythme. Alors que dans Double Sextet, on a des instruments aussi à percussion, mais surtout deux violons, deux violoncelles, deux flûtes, deux clarinettes, c'est-à-dire des instruments qui apportent un côté plus mélodieux, même si l'écriture, à nouveau, repose beaucoup sur le rythme. Et donc, globalement, pour les deux œuvres, les qualités qu'on demande aux interprètes sont à peu près les mêmes. Ce qui compte, c'est la mécanique collective qui fait avancer le discours. Et ici, le discours avance beaucoup, avec beaucoup d'énergie et de manière très, très, très euphorisante.
Messieurs, Jean Ardenne pour conclure presque.
Oui, vis-à-vis de l'instrumentarium, c'est en effet très important. C'est l'enjeu de ces pièces, notamment de la première. Comme l'a dit Emmanuel, dans la première, il y a des instruments à percussion. Et le piano, c'est un instrument à percussion. Et la question, c'est la question du continu ou du discontinu. Reich, il se donne comme un challenge, un défi. Est-ce que je peux arriver à rendre continu le son d'un instrument discontinu? Une percussion, quand vous frappez, vous maîtrisez quasiment pas la nourriture du son, la résonance, etc. Donc là, par la répétition des pianos, par de nouveaux modes de jeu, enfin ils sont pas si nouveaux, mais le fait de frotter avec l'archet les lames d'un vibraphone, on questionne comme ça continu discontinu, et en fait le double sextet prolonge cette réflexion là avec des instruments comme clarinette, violoncelle, violon.
Laurent Burie, pas mieux. J'essayais de voir si Ecozone allait jouer par nos contrées. En tout cas, pas ce programme, et en tout cas, pas vraiment nos contrées, puisqu'il reste pour l'instant en concert au Danemark, où ils sont. Vous vouliez ajouter quelque chose, Emmanuel Dupuis? Je vais vous voir regarder ce
Non, non, je crois qu'on a tout dit.
Avec gourmandise.
Je crois qu'on a tout dit, qu'on est tous d'accord pour saluer cet enregistrement qui est une pierre importante dans la discographie.
Peut-être juste ajouter que l'extrait qu'on a entendu n'est pas forcément le plus représentatif de l'ensemble du disque. C'est un mouvement lent et il y en a qui sont beaucoup plus dynamiques.
C'est vrai, plus dynamiques, mais plus longs. C'est vrai que comme on choisit généralement, et tant qu'on le peut en tout cas, de ne pas couper les extrêmes et de les laisser dans leur intégrité, c'est vrai que ce mouvement a été aussi choisi pour sa durée, mais vous faites bien de le préciser. Laurent Burie, vous avez vraiment bien fait de venir. Sextet, double sextet de Steve Reich par Mathias Remmert et l'ensemble Ecozone, c'est chez Mod Records. C'est l'heure du jeu de la dispute. David Dana nous a rejoint dans ce studio pour nous rappeler la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse.
Qui est l'auteur du livre « La fin de l'homme rouge » et la réponse est Svetlana Alexievitch.
En effet, elle a gagné ce soir des invitations pour l'exposition Hans Hartung. C'est à partir d'après-demain ou de vendredi, 11 octobre. C'est la réouverture du Musée d'art moderne de Paris après travaux. Un tout nouveau et tout beau Musée d'art moderne de Paris avec cette grande expo Hartung dont nous parlerons bien sûr bientôt dans la dispute. Quelle est la question ?
De quel mouvement artistique du XXe siècle Hans Hartung fut-il l'un des précurseurs ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, David Dana, prise de son ce soir Clément Daté, réalisation Alexandre Fougeron. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations concernant cette émission sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Celle de demain, il faudra attendre demain. 19h pour découvrir cette dispute consacrée aux arts plastiques avec Corinne Rondeau, Frédéric Bonnet et Christophe Rioux. Nous parlerons d'une expo qui vient d'ouvrir, Toulouse-Lautrec résolument moderne, c'est au Grand Palais à Paris. L'âge d'or de la peinture anglaise de Reynolds à Turner, c'est au musée du Luxembourg. Et nous parlerons également de l'exposition d'Anna Boguiguian aux Beaux-Arts de Paris. Et puis il y aura un coup de cœur de Corinne Rondeau pour un livre, Chroma, un livre de couleurs de Derek Jarman en collection de poche chez L'Éclat.